pour tous les amoureux du jazz. Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Herbie Hancock, c'est le piano sans frontières. Et son instrument, le synthétiseur, est un piano un peu spécial. Un appareil électronique qui crée ou modifie les sons. C'est au début des années 60 que Robert Moog met au point le premier synthétiseur. Tout d'abord réticent, car il était utilisé principalement par les compositeurs de films et les musiciens rock. Les jazzmen viendront de plus en plus à cet instrument, pour beaucoup grâce à Herbie Hancock, que nous retrouvons aujourd'hui. Sans doute grâce à sa formation classique, qui lui a permis dès l'âge de 11 ans d'interpréter Bach et Mozart comme soliste, du Chicago Symphony Orchestra, Herbie Hancock s'est imposé comme l'un des pianistes les plus éclectiques du jazz. Influencé au départ par George Shearing et Billy Vance, il finit par développer un jeu tout à fait personnel, ce qui ne l'empêchera pas de s'adapter aux différents styles de la musique afro-américaine à l'honneur dans les années 60 et 70. On lui doit l'introduction des instruments électroniques dans le jazz, ainsi que quelques fort belles pages du funk, avec en particulier Watermelon Man, et du jazz rock, avec Miles Davis. Mais comme Chick Corea, il reviendra par la suite à la musique acoustique, pour mieux mettre en valeur son jeu d'une exceptionnelle richesse. L'une de ses grandes qualités stylistiques tient dans le fait qu'il sait faire simple, en créant des climats à partir de très peu de notes, comme le remarquent les auteurs du Dictionnaire du jazz. Que ce soit sur tempo lent ou rapide, ses improvisations ne s'apparentent en aucune façon à l'exercice de style, mais bien au contraire, constituent un enrichissement permanent du morceau. Hancock aime également à travailler sur le son. Dans Miles Smiles, par exemple, il renonce parfois à se servir de la main gauche et de la pédale, obtenant une sonorité semblable à celle d'un instrument à vent. Certains ont vu dans ses phrases longues et enchevêtrées, à l'époque où il se trouvait dans la formation de Davis, l'influence d'Ornette Coleman et dans son quartet sans piano. Mais Orbitz, Dolores ou Gingerbread Boys font aussi penser à Lenny Tristano. Créateur de climat, Hancock l'est plus encore dans Maiden Voyage, qui en 1965 marque un tournant important dans sa carrière, ou avec Speak Like a Child en 1970. Les sons, avec leurs couleurs et leur corps, a expliqué le pianiste, m'intéressent plus que le dessin défini des accords. recherches sur le son, qui le rapproche des artistes du label ECM, vont l'amener à recourir de façon de plus en plus systématique à la lutherie électronique, comme en témoigne la nouvelle version de Watermelon Man sur Headhunters et Sound System. Sa musique se fait dès lors moins complexe qu'à ses débuts et par là même touche un très large public. Fitz, Monster et Rock It, qui ont plus à voir, il est vrai, avec le funk rock d'un Sly Stone qu'avec l'orthodoxie du jazz, seront en effet d'énormes succès. Trois titres, par ailleurs, qui ne seront pas sans influencer Michael Jackson et Prince. Herbie Hancock, néanmoins, ne se laissera jamais griser par le succès. Efficace, sur Fender Rhodes ou DX7 Yamaha, il se montrera de nouveau virtuose au piano acoustique lorsqu'il jouera au sein du VSOP, puis en duo avec Chick Corea. Peu de musiciens de jazz, en définitive, ont réussi sans se compromettre à élargir à ce point les frontières du jazz. Connaisseur de la musique de tradition européenne, figure marquante du jazz rock aux côtés de Miles Davis, puis avec le groupe Return to Forever, Chick Corea possède, on le voit, plusieurs points communs avec Herbie Hancock. Il était donc dans l'ordre des choses que les deux pianistes se retrouvent en studio après être revenus l'un et l'autre au jazz acoustique. Les enregistrements de 1978, notamment « Someday my prince will come » et « Liza », témoignent à la fois de la virtuosité des deux musiciens et de leur intérêt pour le jazz pur. Né à Chelsea, dans le Massachusetts, le 12 juin 1941, Chick Corea étudie la musique classique dès l'enfance, tout en s'intéressant au jazz et au folklore latino-américain. Après un très bref passage au prestigieux conservatoire Juilliard, il fait ses premières armes comme pianiste de jazz dans les formations de Willie Bobo et de Blue Mitchell. membre du quartet de Stan Getz. Il est ensuite engagé par Miles Davis, dans l'orchestre duquel il se montre particulièrement inspiré au piano électrique. Il forme en 1970 le trio Circle avec Dave Holland et Barry Atchoul, qui deviendra quartet avec l'arrivée d'Anthony Braxton, mais c'est avec Return to Forever qu'il accède à une consécration bien méritée. Enfin, jazz, rock, musique brésilienne, jazz romantique, le groupe voit alors son audience s'élargir à chaque concert et à chaque album. Après avoir quitté New York pour la Californie, Chick Corea multiplie les séances, soit en solo, soit avec d'autres musiciens. Outre ses enregistrements avec Herbie Hancock, il faut citer ceux avec Gary Burton, Keith Jarrett, le pianiste classique Friedrich Gulda et John McLaughlin, de même que ses chefs-d'œuvre que sont Piano Improvisation, Crystal Silence, Children's Song et son interprétation du concerto pour deux pianos et orchestre de Mozart. En 1986, Chick Corea fonde l'Electric Band avec de jeunes musiciens qui, comme lui, partagent un goût prononcé pour une musique sans frontières stylistiques. Ils jouaient ensemble parfois Chick Corea, Herbie Hancock, et c'était une très belle démonstration de jazz acoustique. La volonté de dépasser les frontières stylistiques et de réunir en une même esthétique les différents courants de la musique populaire n'est pas née à la fin des années 60. Au début de cette décennie déjà, tandis que l'Angleterre succombait au charme ravageur des Beatles et des formations Beat de Liverpool, certains artistes avaient cherché à fusionner rock et jazz. Ce fut le cas notamment de Graham Bond et d'Alexis Korner, qui avaient réuni dans leurs orchestres des instrumentistes venus du blues comme du jazz. Par la suite, les groupes de l'école de Canterbury, à commencer par Soft Machine, renouvelèrent le langage du rock en l'enrichissant des apports du jazz moderne et de la musique d'avant-garde. Mais pendant de longues années, force est de reconnaître que ces tentatives de fusion furent exclusivement à mettre au crédit des musiciens rock, qui cherchaient peut-être la reconnaissance auprès d'un public adulte et d'une façon générale, cultivé. Le thème mondialement connu de la Panthère Rose ne doit pas faire oublier les autres partitions que Henry Mancini a signées pour les studios hollywoodiens. On lui doit en effet les orchestrations de Romance inachevée, The Benny Goodman Story et Atari. Mr. Lucky, que le combo a enregistré en 1961, fait également partie de ses œuvres phares. Il faut ici admirer la fluidité de Bird, unanimement reconnu comme l'un des trompettistes phares du hard bop, mais également les anses de Herbie Hancock. Il a de toute évidence parfaitement assimilé le jeu du pianiste Barry Harris, accompagnateur notamment de Charlie Parker, Miles Davis et Max Roach dans les années 50, qui pensait les phrases musicales avant de les exécuter. D'où une improvisation que l'on peut qualifier de réfléchie. Mr. Lucky. De jazz à s'être véritablement intéressé au rock a été Miles Davis. Enregistré en 1969, In a Silent Way et Beaches Brew firent franchir une nouvelle étape décisive au jazz après les révolutions que furent le bop, le cool et le hard bop. Parce que s'y trouvaient mélangés jazz et rock, mais aussi parce que Davis et ses musiciens avaient utilisé pour ces deux albums des instruments électriques, la démarche du trompettiste était d'ailleurs bien comparable à celle de Jimi Hendrix, qui refusait l'appartenance à telle ou telle école, animé par une seule idée d'élargir l'horizon de la musique afro-américaine. Pour juger a posteriori du rôle fondamental joué par Miles Davis, il suffit de citer les noms de quelques-uns des musiciens qui participèrent aux fameuses sessions In a Silent Way et Beaches Brew. Le guitariste John McLaughlin avec le Mahavishnu Orchestra, le batteur Tony Williams avec Lifetime, le claviériste Zoé Zawinul et le saxophoniste Wayne Shorter avec Weather Report, les pianistes Chick Corea avec Return to Forever ou Herbie Hancock. Forgeant l'âge d'or du jazz rock, ils réussirent à s'attirer les suffrages de deux publics que tout jusque-là séparait. on a pu dire que les diverses tentatives de fusion avaient abouti à l'impasse. Ce qui est certain, au-delà de l'incontestable valeur artistique de bon nombre de leurs albums, c'est que Davis et ses disciples eurent le mérite de tenter quelque chose de vraiment nouveau, et sans doute plus important encore, de rendre le jazz plus accessible au moment même où apparaissait le free jazz, plus hermétique et beaucoup plus politique. Grâce à Davis, Hancock ou Correa, des milliers de jeunes allaient s'intéresser au jazz et même apprendre à apprécier Parker, Mingus ou Coltrane. Enfin, et ceci constitua un nouveau tournant dans l'évolution du mouvement rock, les musiciens de jazz rock montrèrent que la technique, lorsqu'elle n'était pas utilisée pour elle-même, avait sa place auprès du feeling. Les morceaux de ce disque ont tous été enregistrés à New York en 1961. Herbie Hancock est au piano, Donald Byrd à la trompette, Piper Adams au sax baryton, Lemon Jackson à la basse, Jimmy Cobb aux drums et Teddy Charles au vibraphone. Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro. Ces numéros consacrés à Herbie Hancock ont été enregistrés, réalisés et mise en musique par Pierre Écart dans les studios du Rocasse de Radio Grand Ciel.